Hors d'Afrique, les paradis fiscaux britanniques et le milliard et demi de dollars disparus du Congo, c'est le titre de ce nouveau rapport que l'ONG internationale Global Witness a publié mercredi cette semaine. Ce rapport parle essentiellement de l'opacité qui entoure le secteur extractif en RDC. L'ONG craint pour des contrats obscurs qui pourraient financer les élections prochaines. Nous parlerons également dans cette émission des marchés pirates et de ceux qui opèrent leur commerce jusque tard dans la soirée. Nous sommes là à Ouvira dans le Sud Kivu. Ils ont été sommés cette semaine par le commissaire principal et commandant du commissariat urbain de la police de Ouvira de déguerpir le long de la route nationale numéro 5 où ils opèrent. Et nous recevons dans la deuxième partie de cette émission, dans ce studio, le secrétaire général de l'ONG de défense des droits des travailleurs des lignes aériennes congolaises, ancienne compagnie d'aviation présentement en liquidation, une liquidation jugée illégale par les anciens travailleurs, puisque selon eux, cette liquidation ne respecte pas les normes en la matière. Voilà pour les titres. Messieurs et dames, bienvenue à Panorama Économique, la rétrospective de l'actualité économique sur votre radio.
Panorama Économique, le dossier.
Hors d'Afrique, les paradis fiscaux britanniques et le milliard et demi de dollars disparus au Congo, c'est le titre de ce nouveau rapport que vient de publier l'ONG internationale Global Witness. Ce rapport parle essentiellement de l'opacité qui entoure le secteur extractif en République démocratique du Congo. Berry Franklin Luchaka.
Ce nouveau rapport de Global Witness dit, je cite, « La République démocratique du Congo devrait être l'un des pays les plus riches du monde grâce aux milliers des milliards de dollars que représentent l'or, le diamant, le cuivre, le cobalt et autres ressources naturelles de son sol. La demande en minerais utilisée dans la fabrication des smartphones, d'ordinateurs, de batteries et d'innombrables autres biens de grande consommation est incroyablement élevée, mais la corruption endémique et la mauvaise gestion maintiennent toutefois les citoyens congolais dans la pauvreté, tandis que le commerce illicite de minerais finance la violence et le conflit armé depuis des décennies. » Fin de citation. Comme pour faire suite aux révélations de Panama Papers, l'enquête de Global Witness regrette le fait que l'État ait vendu des précieux actifs miniers à des prix trop bas pour éviter toute suspicion. Et ces transactions ont fait perdre au Trésor public des centaines de millions de dollars de revenus. Cet argent s'est retrouvé dans les mains de quelques sociétés anonymes, dont les véritables propriétaires se dissimulent derrière une cascade des sociétés écrans dont le siège se situe dans un paradis fiscal offshore dans les territoires britanniques d'outre-mer. Et derrière cette opacité entretenue, l'ONG cite l'homme d'affaires israélien Dan Gertler. Global Witness demande entre autres que des pressions intérieures et extérieures soient exercées sur le gouvernement congolais et les sociétés minières publiques du pays pour se conformer aux lois nationales et aux obligations internationales en publiant des informations détaillées sur les nouveaux contrats miniers, pétroliers et gaziers, en particulier en amont des élections 2016. Au gouvernement du Royaume-Uni, où ces sociétés fantômes sont logées et les autres économies développées, doivent insister sur la tenue des registres publics des bénéficiaires effectifs et mettre fin à l'existence des juridictions occultes dans les paradis fiscaux.
Rentrons à présent dans le Sud Kivu, où les marchés pirates et tous ceux qui y opèrent jusque tard dans la soirée doivent déguerpir le long de la route nationale numéro 5 dans la cité d'Ouvira. La mise en garde a été donnée par le commissaire supérieur principal et commandant du commissariat urbain de la police Ouvira. Le conseil territorial de sécurité réuni mardi par les autorités de la ville devrait prendre les modalités pratiques pour ce déguerpissement, comme nous dit ici Fistongo Mamayabala.
Ces recours à la force par la police s'inscrit dans le cadre de la prévention. D'après des sources de la police, l'objectif est de permettre aux services générateurs de recettes de renflouer la caisse de l'État. Le marché le plus visé sont le centre commercial de Mulongo et celui de Kalimabenge. Partout ici, l'on observe des commerçants ambulants et d'autres catégories de marchands étalant leurs produits et les denrées alimentaires à même les sols. C'est aux mêmes endroits où passent motos, vélos et piétons et où se font les manœuvres des véhicules qui reviennent des marchés de l'intérieur. Ce marché illégaux dit pirate exerce jusque vers 22h sans éclairage public et avec beaucoup de risques d'insécurité. La plupart des marchands contactés affirment être en règle avec l'État et payent régulièrement leurs perdent accès aux services de l'État. Pour eux, l'exemple doit venir d'en haut, à Bukavu ou à Kinshasa, où ces problèmes n'ont pas trouvé solution. Ces petits commerçants disent concevoir très mal d'être la cible de la police et souhaitent dialoguer avec les autorités. Pour la police, la route nationale n'est pas un marché. Ces marchés doivent disparaître et être relocalisés au marché central où il y a assez de la place pour tout le monde. La police déplore par ailleurs l'inefficacité des opérations effectuées auparavant contre les marchés pirates suite à la compromission de certains chefs locaux soudoyés par les commerçants. L'adjoint de la chef des cités d'Ouvira, John Ngwasi, a nié la corruption des chefs locaux et souhaite que la police chargée de l'environnement et assainissement de la ville reste permanente sur le place publique. Fistongo Mamayabala, Ouvira, pour l'Écho d'économie.
Les opérateurs économiques du Kasaï oriental appelés à trouver une alternative au diamant au regard de la récession qui touche singulièrement le marché du secteur minier. Message lancé par une délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. Cette délégation qui a séjourné cette semaine à Mbujimayi. La délégation était allée discuter avec les opérateurs économiques locaux afin de voir dans quelle mesure améliorer l'état des lieux des investissements au Kasaï oriental. Les détails avec vous, Chris Mokand.
Au cours d'une séance de travail avec les opérateurs économiques de Mbujimayi, Gisèle Chamala Kanyeba, chef de service en charge de la génération des investissements à l'ANAPI, a relevé que le secteur de mine était prépondérant au Kasaï oriental. Pourtant, ce secteur est frappé par la récession. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a donc opté pour la diversification des activités.
Ici, à Mbujimayi, il y a beaucoup de potentialités. Il faudra maintenant essayer de les revaloriser, de produire des richesses dans d'autres secteurs et il faut créer une alternative. Et c'est pour ça que nous sommes venus pour discuter avec eux dans quelle mesure nous pouvons, avec notre contribution et notre appui, monter des projets qui soient bancables et qui peuvent être en quête de financement et que l'ANAPI peut promouvoir pour pouvoir contribuer au développement économique de la ville de Mbujimayi.
Envie d'accompagner les opérateurs économiques dans la recherche des moyens nécessaires à l'épanouissement de leurs activités, l'Agence nationale pour la promotion des investissements étudie les voies et moyens d'installer son antenne en Mbujimayi. C'est ce qu'indique le sous-directeur en charge de marketing et antenne provinciale, Flori.
Nous sommes en contact avec les investisseurs susceptibles de pouvoir financer certains projets, travailler dans le cadre du partenariat privé-privé avec les hommes d'affaires qui sont ici sur place. De ce fait, nous aurons à les accompagner, notamment dans l'élaboration de leurs projets d'investissement et voir dans quelle mesure nous allons assurer la promotion de ces projets auprès des investisseurs qui sont en capacité de financement et de manière à sceller ensemble des contrats de partenariat privé-privé. La problématique du financement constitue une contrainte de taille pour l'essor des investissements au niveau de la province du Kasaï oriental. En étant ici et en étant aussi en contact avec les investisseurs, ça va favoriser le partenariat privé-privé entre les hommes d'affaires du Kasaï oriental et c'est du reste du monde.
La nouvelle réjouit les opérateurs économiques du Kasaï oriental qui affirment faire du surplace au regard du climat des affaires difficiles depuis un moment. Chris Mukand, Mbujimayi, Écho d'économie.
Pendant ce temps, l'agence néerlandaise de développement, la SNV, poursuit depuis près d'un mois dans la cité de Mbanzangungu, dans le Congo central, des études et ateliers avec les associations agricoles de ce coin du Congo central. C'est dans le cadre du projet de développement de pôles de croissance dans cette province, une activité saluée par les associations paysannes locales, notamment la FOPACO. Pour les organisations paysannes du Congo central, il sera question d'implanter plus de 100 coopératives dans la province dans le cadre de ce projet.
Selon Ibrahim Manzukula, acteur des développements et membre de la force paysanne du Congo central FOPACO, ce travail ou cette activité de la SNV s'est fait avec les organisations paysannes, associations et plateformes agricoles, notamment la FEPACO basée dans le territoire de Mbanzangungu situé à plus de 215 km à l'est de la ville de Matadi. D'après la même source, cette organisation néerlandaise est aujourd'hui en train de structurer les mouvements paysans à travers plusieurs activités qui ont démarré depuis précisément le 23 mars dernier. Notez qu'il est prévu d'atteindre le chiffre de 150 coopératives agricoles au Congo central à travers ce projet avec près de 350 000 familles à nourrir. A titre de rappel, sachez que le projet de développement de pôle de croissance est un projet du gouvernement central financé par la Banque mondiale à hauteur de 150 millions de dollars américains. Le Congo central, classé dans la composante 1, bénéficie de 40 millions de dollars. Un projet qui s'étend sur une période de 5 ans qui a démarré donc en 2014. L'objectif principal est de permettre aux paysans du Congo central d'augmenter leur production agricole avec comme effet positif l'augmentation de leurs revenus et l'amélioration de leurs conditions de vie, et notamment la lutte contre la sous-alimentation. Parmi les filières identifiées au Congo central, il y a le manioc, l'huile de palme et le riz. 50 000 ménages agricoles bénéficient de ce projet développé au Congo central dans 6 pôles, à savoir Boma, Lukula, Tchela, Kimpese, Madimba, Mbanzangungu, où se déroule cette activité de la SNV et de ses partenaires. Matadi, Guirogé Nyampala, Éco d'économie.
Panorama économique. Chaque samedi à 12h30, Radio Okapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie de marché, les développements des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique.
Autre actualité de la semaine en plus bref, la cimenterie de Lukala a décidé d'arrêter la production du ciment gris au Congo central. Raison avancée pour cet arrêt de production, la forte concurrence déloyale sur le marché causée par le ciment en provenance de l'Angola. Cette décision a été annoncée mercredi par la hiérarchie de cette entreprise. Pour le directeur général de la Silou, M. Olaora, c'est depuis décembre dernier que son entreprise se voit complètement dépassé par cette concurrence qui a obligé l'usine de tourner en dessous de 50% de sa capacité installée. Cet arrêt du four fait remarquer Olaora doit s'accompagner d'une période de congé technique pour au moins 92 agents sur les 350 employés permanents jusqu'à ce que la situation du marché se normalise. La sous-traitance est aussi affectée par cette déconfiture, précise le directeur général de la Silou, et pour lui, la solution se trouve au niveau des autorités du pays. Transport aérien en RDC, Congo Airways a un nouveau directeur général. Désiré Balaziré remplace Claude Kirongozi qui a dirigé cette entreprise aérienne de l'État, et la remise reprise a été effectuée lundi dernier. D'après notre source, le gouvernement souhaiterait, avec le passage de la phase du lancement à celle d'exploitation, insuffler une nouvelle dynamique et promouvoir de nouvelles méthodes de gestion. Notez que Désiré Balaziré était conseiller principal en charge du climat des affaires à la primature. Et dans la deuxième partie de Panorama économique, nous recevons dans ce studio le président du collectif de 1600 agents des lignes aériennes congolaises Les Lacs. Avec lui, nous allons parler des droits de sortie que réclament les travailleurs qui avaient déjà consenti une bonne partie de leur arriéré de salaire. Ils estiment que la liquidation telle qu'entreprise par le gouvernement actuel est illégal. LAC n'a jamais été en cessation d'activité, comme le Premier ministre l'a bien dit devant l'Assemblée nationale. Nous en parlons avec vous, Léonard Kissembe. Vous êtes avec nous, vous êtes secrétaire général de l'ONG de défense des droits des travailleurs des lignes aériennes congolaises, les LAC en sigle. Bonjour Monsieur Léonard Kissembe.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Vous êtes les bienvenus dans notre studio. Vous voulez réagir justement par rapport au processus de liquidation qui est en cours au sein de votre ancienne entreprise.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est que je voudrais réagir contre le propos que le Premier ministre a tenu devant l'Assemblée nationale à propos de la liquidation des LAC. Je veux d'abord revenir sur le fait que si nous sommes allés en justice, parce que nous sommes en justice avec le gouvernement, l'État congolais,
vous, les ex-travailleurs de LAC.
Nous ne sommes pas encore ex-travailleurs parce que nos contrats sont en train de courir. Donc nous sommes allés en justice parce que la loi qui transforme les entreprises publiques en société commerciale, cette loi a été violée par la liquidation. Et comme je peux vous le montrer, nous avons aussi les décrets qui classifient les différentes entreprises. Mmh. Et ces décrets-là, les décrets numéro 09/12 du 24 avril 2009, mettaient les lignes aériennes congolaises parmi les sociétés à transformer en société commerciale, au numéro 14. Après cette évaluation qui a été faite par les experts du portefeuille, les experts de la République, il y a eu les COPIREP, il y a eu les conseils supérieurs du portefeuille. Il n'y a pas eu une autre évaluation qui a été faite par la suite. Donc, nous ne comprenons pas comment est-ce que l'acte s'est retrouvé dans l'esprit du gouvernement actuel parmi les entreprises à liquider. Étant donné qu'il y a une loi qui a été violée, nous nous sommes dit que ça peut être une erreur, autant aller devant les tribunaux de commerce pour que nous puissions être départagés par les tribunaux de commerce sur cette matière-là. En dehors de cette liquidation qui s'est faite de cette manière-là, depuis 1 an et 6 mois déjà, les travailleurs ont été chassés comme des malfrats de l'entreprise et nous sommes partis sans qu'on nous ait dit quoi que ce soit jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous étions également
aucun
choqués. Aucun droit payé, aucune clôture de compte, rien, alors rien. Alors, nous avons été aussi choqués quand le Premier ministre dit devant la représentation nationale que l'entreprise était en cessation d'activité, que l'entreprise ne payait pas de l'argent, enfin, ne payait plus son personnel, alors qu'il est conscient que, à ce moment-là, en 2009, 2010, quand on a commencé la réforme de l'entreprise, parmi les entreprises, celles qui étaient en bonne position pour pouvoir décoller, c'était LAC. Parce qu'au fait, d'abord, nous avons fait les travailleurs de LAC.
À ce moment, LAC avait un passif très lourd.
Nous avons posé un acte hautement patriotique. Les travailleurs de LAC ont négocié avec l'État congolais, avec l'employeur, une décote de 85% de leurs arriérés de salaire, donc de ce passif-là dont vous parlez. Donc 85%, nous étions prêts à enterrer les 85%. Et d'ailleurs, 10%, on avait déjà commencé à nous payer 10%. On a terminé pratiquement à payer les 10%. Il restait 5% à pouvoir payer. Et on avait trouvé un programme, un bon programme pour relancer l'entreprise. Parce que vous savez que aujourd'hui, ce qui fait même d'ailleurs la convoitise qui amène LAC dans cette dissolution, LAC a un patrimoine immobilier très important. Et avec le comité de gestion qui était à l'époque, le comité Cheribo-Kindé, nous avions convenu qu'il y avait dans le patrimoine de LAC certains immeubles qui n'étaient pas liés à l'exploitation, qui pouvaient être vendus pour procéder au fait à l'assainissement de l'entreprise. Entre autres, il fallait mettre déjà à la retraite ceux qui étaient éligibles à la retraite, il fallait amener ceux qui étaient déjà pensionnés auprès de l'INSS pour qu'ils puissent continuer à toucher les rentes de pension. Et il fallait aussi relancer l'entreprise et payer les soldes de arriérés qu'il y avait.
Mais vous allez payer comment alors que vos avions ne volaient plus?
Non, je vous dis que nous avions dans un programme avec le patrimoine que nous avons, qu'on voudrait vendre aujourd'hui aussi. Alors nous ne comprenons pas même la différence parce que nous on voulait vendre ce patrimoine-là, prendre une partie du patrimoine, de l'argent et relancer l'entreprise. Et une autre partie, liquider notre passif.
Ça a été évalué.
Ça a été évalué et très bien évalué.
Et ça pouvait
nous donner. Je vous dis que la partie, c'est pas tout. On avait ciblé à peu près 13 immeubles, je crois entre 13 et 15 immeubles, qui pouvaient nous donner 20 à 30 millions de dollars. Et tout le reste des immeubles restaient. C'est tout ce qui était lié à l'exploitation. Alors, avec les 20 à 30 millions de dollars, on pouvait assainir totalement l'aspect
passif
social du personnel. Et on allait commencer à payer régulièrement les salaires. En plus, si nous avions fait cela, c'est pourquoi? Parce que nous avions un partenaire qui, au fait, avait demandé à ce que nous fassions notre part de l'avancement de l'entreprise.
Contrat,
Et ce partenaire, c'était AVIC International. AVIC, c'est une société chinoise, une société d'État, qui d'ailleurs avait obtenu pratiquement la quittance de toutes les autorités, entre autres le président de la République. Ça, c'était avec le gouvernement Mouzito. Parce que c'est un dossier qui a été négocié toujours par le comité de M. Cheribo-Okende avec le gouvernement de la République et le gouvernement chinois qui est propriétaire de cette entreprise. Il allait avoir un partenariat entre AVIC Chine et LAC. C'est un partenariat qui était pratiquement déjà avancé, dont les négociations étaient très avancées. Et qu'est-ce que ce partenaire a mené? Il nous a mené 157 millions de dollars, nous a mené une dizaine d'avions chinois qui sont en train de voler en Afrique parce que les Zimbabwe en a, et ici en face à Brazzaville, ils en ont. Et il nous a mené aussi la construction d'un grand centre de maintenance de ces avions chinois ici à Kinshasa.
C'était conclu.
Et on allait former 100 techniciens de haut niveau, entre autres de pilotes et de mécaniciens, avions et des avionics en Chine pour ce projet-là. Le président de la République a reçu le ministre chinois, le vice-ministre chinois des transports. Je crois que les télévisions de la place peuvent avoir les archives de cette période-là. Alors, nous ne comprenons pas. C'est là où nous disons qu'il y a un acharnement que nous ne comprenons pas. Parce que nous avions, d'un côté, les agents ont accepté d'assainir le financement de l'entreprise. Et d'ailleurs, le bilan qui a été fait, je crois, en 2012, la clôture était très concluant. Parce qu'avec 85% des passifs sociaux qui tombaient, l'entreprise avait déjà payé pratiquement 10% du reste de ses passifs et les 5% autres, il y avait de l'argent. Et d'ailleurs, si vous arrivez au niveau de l'entreprise, il y a encore des cadeaux qu'on avait achetés pour les pensionnés, pour ceux qui devaient aller à la retraite. Qui? Un congélateur, qui? Un moulin.
Que les choses allaient déjà sur
les choses étaient sur les rails et nous étions déjà pratiquement, chacun avait repris le sourire et nous étions sûr que
les choses vont se passer correctement. Les choses ont vite se sont arrêtées pour qu'on vire dans le négatif. Qu'est-ce qui est arrivé?
Bon, c'est là où c'est la question que nous nous posons. Je ne sais pas. Nous ne savons pas s'il y a un problème. Il y avait un problème personnel entre M. Okende et le Premier ministre. Parce que dès qu'il est arrivé, le Premier ministre a tout arrêté. Tout d'abord, en tant que ministre du portefeuille, il a arrêté le projet AVIC.
Il était ministre des Finances?
Ministre des Finances et ministre intérimaire du portefeuille. Et celui qui faisait l'intérim de Mme Abunda. En fait, le projet a été mis sur le chantier par Mme Abunda et le gouvernement qui l'a possédé, le gouvernement Mouzito, et le gouvernement Kouyagalo est venu aussi donner son aval. Vous savez que Kouyagalo a fait l'intérim de Premier ministre quand les autres sont allés en campagne.
Oui. En 2011.
Alors, tout allait très bien. Mais c'est dès qu'il arrive, la première des choses qu'il a fait, il a coupé la tête d'abord au comité Okende. Il a fait partie du comité Okende, qui était investi par un décret présidentiel. Et ce comité est parti, et jusqu'à aujourd'hui on ne l'a pas corrigé, ce comité est parti par une lettre du ministre de portefeuille. Oui, dans le cadre de parallélisme de forme, ça ne se fait pas. Quelqu'un qui a été nommé par décret présidentiel, on le fait partir par une lettre d'un ministre. Bon, nous n'avons pas compris, et on a nommé au fait quelqu'un, celui qui aujourd'hui, qui pilote aujourd'hui au fait la liquidation, et qui est aussi directeur commercial de Congo Airways, c'est lui qu'on a nommé comme administrateur délégué. Alors, même dans les aveux de ce monsieur-là, quand il est arrivé, quand il a parlé avec le cadre, un jour, c'est passé, c'est une là de sincérité, il a dit, en me nommant ici, on m'a dit de ne rien entreprendre pour poursuivre la relance de l'AC. Nous étions tiqués. Nous avons pensé que peut-être que c'était seulement de la blague.
Donc c'était une volonté délibérée d'enterrer l'AC.
C'était une volonté délibérée d'enterrer l'AC, de liquider l'AC. C'est une volonté délibérée.
Et aujourd'hui, ça fait plus d'une année qu'on vous a remercié. Vous dites que vous êtes remercié, vous êtes chassé de l'entreprise, mais vous estimez que votre contrat continue à courir. Qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui?
Oui, si nous estimons que notre contrat continue à courir, c'est parce que d'abord, on n'a jamais clôturé nos comptes, on n'a jamais signifié à qui que ce soit parmi nous, hein, que le contrat s'arrêtait. C'est ça le fait que c'est à cause de ça que nous disons que notre contrat continue à courir. Et sur le plan des droits de travail, on ne peut pas, il n'y a personne, aucun juriste ne peut nous dire que les contrats, parce qu'on avait annoncé au fait de la liquidation ou la dissolution, que les contrats devaient s'arrêter directement. Non. La deuxième des choses, c'est que nous nous disons quand même nous aussi que nous sommes des Congolais. Et l'article 36 de la Constitution nous dit que le travail est un droit. Et quand nous revenons à l'article 16, il est dit qu'on ne peut pas soumettre un être humain à un traitement dégradant, cruel et humiliant. Et un humain. Nous, nous sommes soumis à ce traitement-là. Vous pouvez vous imaginer, nous sommes 1600 agents qui sont frappés par cette situation où on nous a laissés dans les noirs. Les gens sont là, il y en a qui meurent, ils ont des familles et nos comptes ne sont pas clôturés. On ne nous a jamais dit que vous allez nous payer. Et nous sommes sûrs, parce que nous n'avons jamais vu même un petit signal qu'il y avait une volonté de nous payer. Quand je vous dis que quand le Premier ministre a arrêté l'évolution de l'acte, on était en train de nous payer. Nous venions de recevoir 10% de nos arriérés après avoir convenu avec le gouvernement et on nous payait les 5% 6 mois après. Mais le Premier ministre, qui semble-t-il a les soucis des travailleurs de l'AC, aurait dit laisser que ce processus puisse continuer. Mais il a arrêté et il a fait nommer un comité de liquidataires qui se retrouve entre l'AC et Congo Airways. Avec telle mission, prendre une partie du patrimoine de l'AC
pour donner à Congo Airways. Et c'est ce qui se fait maintenant?
Évidemment, c'est ce qui se fait. D'ailleurs, quand ils ont fait les soumissions, parce que tout était à vendre, mais le ministère des Transports, qui d'ailleurs est partie prenante dans cette liquidation illégale. Parce que, si vous vous souvenez, nous avions acheté un avion Boeing 737 200 qui revenait d'un Tchèque à Perpignan en France. Le ministère des Transports, après avis de l'autorité de l'aviation civile, a refusé catégoriquement à ce que cet avion puisse voler, malgré que cet avion remplissait toutes les conditions. C'était le meilleur avion quand il est arrivé, mais il a refusé.
Et il est où maintenant cet avion?
Cet avion est parqué au hangar militaire. Au hangar militaire de l'aéroport de Ngili, où on l'a interdit de voler, malgré tout le potentiel qu'il avait, malgré tout ce que nous avons investi, 3 millions de dollars, pour qu'on puisse faire ce chèque-là, cet avion est immobilisé. Pourquoi? On ne sait pas. Parce que le plan de liquidation était conçu en dehors de tout processus économique ou quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a eu aucun groupe d'experts qui s'est au fait réuni pour réfléchir par la suite.
L'État est propriétaire, il décide de la vie de son entreprise, l'État a créé les lacs, l'État a décidé de liquider.
Oui, ça je dis que l'État aussi est soumis à respecter ses lois. et la loi principale, la constitution. Nous avons dit l'article 16 qui dit la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Nous, les 1600 agents, où est-ce qu'on nous met? Quand l'État peut nous prendre et nous malmener, nous tuer, nous soumettre à un traitement dégradant, moi je pense que quelque part, il doit y avoir des gens qui doivent s'élever. Nous avons saisi le Sénat. Et le Sénat avait tranché, il a dit, le Sénat a demandé au Premier ministre de pouvoir dissoudre, de pouvoir annuler cette décision de dissolution, de remettre l'entreprise dans le schéma qui était déjà au fait en train de relancer l'entreprise. Et ce n'est pas seulement le Sénat, même les concertations nationales pour lesquelles le président de la République avait pris l'engagement de faire respecter les recommandations, le Premier ministre n'en fait même pas cas.
Il y a eu des recommandations par rapport aux lignes aériennes congolaises.
On avait recommandé parmi les recommandations de concertation nationale qu'il fallait relancer les lignes aériennes congolaises.
Mais à la place, on a créé quand même Congo Airways.
Et nous avons applaudi, nous sommes dit qu'il n'y a pas un problème. Qu'on peut créer une nouvelle compagnie, ce n'était pas un problème. Parce qu'il y a des pays, vous vous souvenez, vous pouvez regarder, il y a des pays où il y a plusieurs compagnies aériennes. L'Afrique du Sud, il y en a trois. Il y a South Africa Airways qui vient à Kinshasa, South Africa Express qui vient à Lubumbashi. Et les Emirates qui n'ont même pas un territoire assez grand, ils ont des compagnies. Il y a Flight Dubai et Emirates. Il y a autant de pays qui ont autant de compagnies. C'est un problème de politique de pays. Hein? Alors, nous ne pouvons pas. La naissance du Congo Airways ne nous gênait en rien. Parce que nous avions nos moyens, nous avions notre patrimoine. Et encore, ce qui est plus grave, parce que nous avons négocié ici avec les comités qui nous trahissent, où il y a les liquidateurs qui à la fois Congo Airways et qui liquidateurs. Au fait, nous commençons à comprendre que c'est peut-être lui qui a amené cette idée. Ces collaborateurs ont négocié avec une banque pour que nous puissions obtenir une facilité de paiement. Et la banque nous a accordé une facilité de paiement de 3 millions de dollars pour le renouvellement de matériel d'assistance au sol. Mais même cette opportunité-là a été refusée. Le ministre des Transports, qui est dans la logique du Premier ministre, s'est acharné sur la banque. On a menacé cette banque-là pour que la banque refuse, annule cette ligne de crédit. Qu'est-ce que nous avons fait pour que nous méritions tout cela?
Peut-être que je n'avais pas bien compris. Je reviens sur ma question. Vous demandez quoi en définitive?
Nous demandons que nous puissions être rétablis dans nos droits. Être rétablis dans nos droits, ça veut dire d'abord que notre entreprise soit relancée parce qu'elle a été liquidée de façon illégale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on nous laisse poursuivre le processus pour que nous puissions être payés. C'est-à-dire que nos indemnités de sortie pour ceux qui doivent aller à la retraite, parce que ce procès, nous l'avions déjà amorcé. Nous nous sommes dit aussi que si à l'impossible, le gouvernement de la République ne veut ni respecter les lois de la République, si le gouvernement de la République ne veut ni accepter les recommandations de concertation nationale, et même respecter l'engagement que le président de la République a pris, et même si le gouvernement de la République refusait alors de respecter les recommandations du Sénat et aller dans la logique de violer la loi, il faut que nos droits nous soient accordés. Nous avons fait, comme je vous ai dit, un an et six mois en plus, depuis qu'ils nous avaient chassés, s'ils veulent aller à l'impossible, qu'on clôture nos comptes, qu'on nous donne notre argent, qu'on paye à chacun ce qu'on lui doit, en clôturant nos comptes.
Et vous avez estimé ça peut faire combien? Vous avez fait un petit calcul rapidement, parce que là, vous n'avez rien à faire, vous n'avez plus que votre papier, votre big, pour faire le petit calcul pendant l'année et les quelques mois. Ça peut représenter combien?
Si nous devons aller dans leur logique, c'est-à-dire que s'ils veulent nous payer parce qu'ils n'ont pas clôturé nos comptes, on n'a eu aucune négociation, ça doit tourner autour de 5 millions de dollars.
Pour les 1600 agents.
Pour les 1600 agents. Alors, s'ils ont de l'argent, et d'ailleurs, c'est ce que, la loi OADA exige, que l'État qui est actionnaire unique puisse prendre son patrimoine. Il prend son patrimoine, il nous désintéresse, il nous paye nos droits. Et au jour d'aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Alors, c'est cela, c'est que nous disons que si le gouvernement de la République ne peut rien respecter, peut-être même pas respecter Dieu, parce que nous sommes des êtres humains, et que si on ne peut pas respecter les lois de la terre, on peut quand même penser à Dieu, à respecter Dieu, en sachant que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des animaux qu'on doit malmener, qu'on doit humilier, qu'on doit soumettre à ce genre de traitement auquel on est en train de nous soumettre.
Merci beaucoup, monsieur Léonard Kitembe. Vous êtes le secrétaire général de l'ONG de défense des droits des agents, des travailleurs des lignes aériennes congolaises. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio pour partager avec ces millions d'auditeurs qui écoutent Radio Okapi.
Merci Radio Okapi pour ce soutien que vous nous apportez. Et j'espère que parmi ceux qui vont nous écouter, le Seigneur notre Dieu s'aimera quelque chose. la justice dans le cœur de l'un d'entre eux, de certaines autorités qui sont dans ce pays qui nous ont écoutés. Merci beaucoup, Radio Okapi.
Merci à vous, monsieur Léonard Kintembe. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Panorama économique s'est terminé pour cette semaine. Très bonne fin de semaine à vous tous qui aviez été des nôtres. Retrouvez cette émission sur www.radiookapi.net.